France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La conférence des évêques de France annonce ce matin qu'elle va se rapprocher du Vatican pour faire la lumière sur de nouveaux éléments dont elle n'avait pas connaissance, des archives montrant que le Saint-Siège était au courant dès 1955 d'une série d'accusations d'agression sexuelle commises par l'abbé Pierre. Dans le reste de l'actualité, toujours en France, on évoquera cette primaire qui ne dit pas son nom chez les Républicains. Les Américains sont eux à Paris pour des discussions avec les Européens sur l'Ukraine. Enfin, qui se souvient encore aujourd'hui qu'Haïti a été autrefois une colonie française et que pour acquérir son indépendance, elle a été obligée de s'acquitter d'une indemnité exorbitante? Eh bien, c'est pour reconnaître une forme d'injustice qui a frappé le pays dès sa naissance jusqu'à durablement entraver son développement qu'Emmanuel Macron doit engager à partir d'aujourd'hui un travail historique. On en parlera avec notre invité Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. 10 pages pour dresser dans le détail une chronologie morbide, celle des agissements d'un prédateur sexuel. C'est à partir de ce document relatant les courriers d'alerte de cardinaux et les décisions du Saint-Office qu'un livre va apparaître aujourd'hui, Abbé Pierre, la fabrique d'un saint, publié chez Alaret, que les journalistes Laetitia Chérel et Marie-France Etchegouin viennent compléter la sordide vérité et mettre un vrai visage sur celui qui, des années durant, aura été présenté au reste du monde comme la figure iconique de la défense des démunis. Ou quand on apprend, Florence Thiombe, que dès l'automne 1955, non seulement donc le haut clergé français connaissait la face noire et la dangerosité du prêtre, mais le Vatican aussi.
Dans ce livre enquête, nos consoeurs rapportent une procédure judiciaire réclamée par le Saint-Siège, mais à laquelle l'évêque de Versailles n'aurait pas donné suite. Les archives consultées mentionnent notamment le compte-rendu d'une réunion plénière de la congrégation du Saint-Office, un compte-rendu qui date du 18 mars 1957. C'est ce document de 10 pages dont vous parliez, Thomas, et qui détaille les agissements sexuels de l'abbé Pierre, les courriers d'alerte des cardinaux américains et canadiens en 1955 et les décisions du Saint-Office. Un nouveau coup de massue pour la théologienne Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France.
On ne sait plus où s'arrêter dans l'indignation. C'est sans fond. Toutes ces personnes, ces femmes, ces enfants n'auraient jamais dû être victimes de cet homme. Et ça, c'est abominable. Ça dit beaucoup de choses sur l'Église. Ça vient dire cette puissance du silence, de l'occultation, mais aussi une forme tragique d'impuissance quand même, puisque là on est quand même dans une situation, ce qui n'est pas le cas de tous les prédateurs dans l'Église catholique, où des responsables hiérarchiques ont voulu agir et n'ont pas pu. Il y a une forfaiture qui doit nous interroger aujourd'hui dans la société. Comment on a pu construire ce mythe, comment a pu se construire ce mythe dont on ne sait plus très bien aujourd'hui qu'est-ce qui reste vraiment de l'homme.
D'autant que le livre de Laetitia Chérel et Marie-France Etchegouin revient également sur des propos tenus par l'abbé Pierre sur les Juifs le 21 juillet 44. Il évoque des familles contraintes à l'oisiveté, sans qu'il soit de leur faute, certes, mais regorgeant d'or, avec quoi elle raflait tout avec une impitoyable dureté. Bien avant donc le soutien polémique qu'il avait apporté dans les années 90 aux écrits révisionnistes du philosophe Roger Garaudy.
Les jeux sont faits, ou presque.
Le délai pour adhérer à LR afin de désigner son nouveau président à la mi-mai expire aujourd'hui à minuit. Un scrutin converti une fois de plus en une chasse aux adhérents dont les cotisations permettront en partie de redresser les finances du parti, mais pas seulement, puisque tous les efforts pour obtenir le ralliement de nouveaux militants auront d'abord et surtout été l'occasion d'un premier duel entre les deux candidats pour représenter le parti à la prochaine présidentielle. D'un côté, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et de l'autre, le patron des députés LR, Laurent Wauquiez. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le verdict des adhérents ne sera connu que le 18 mai prochain et ce résultat, Antoine, pourrait donc servir de vraie fausse primaire chez les Républicains.
Oui, alors officiellement, il ne s'agit pas d'une primaire. Aucun des deux candidats ne fait le lien entre l'élection du président de LR et le choix du candidat pour 2027. Personne ne veut le verbaliser, mais tout le monde y pense. D'abord parce qu'à LR, on ne veut plus entendre parler de primaire. La primaire, ça n'est pas dans l'ADN du parti gaulliste, pour qui la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et du peuple sans passer par la médiation d'un parti. La primaire, c'est une invention socialiste à laquelle la droite s'est convertie à deux reprises. lors des deux dernières présidentielles avec l'insuccès que l'on sait. Pour beaucoup de LR, la primaire, c'est devenu la machine à perdre. Et sans primaire, le patron de LR devient une sorte de carte maîtresse dans le choix du candidat, d'où l'importance du scrutin interne qui aura lieu dans un mois. Sauf que LR n'est plus le parti tout puissant qu'a été dans le passé le RPR, qui pouvait alors se payer le luxe de présenter deux candidats à une présidentielle, Jacques Chirac et Édouard Balladur en 95, et gagner le scrutin. Désormais, LR est un petit parti qui, depuis deux présidentielles, ne place plus son candidat au second tour. Obtenir la présidence des Républicains n'est donc désormais qu'une toute petite étape sur le long chemin vers l'Élysée.
Merci Antoine Marette.
Midi passé 35 minutes sur France Culture. La suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Le mouvement islamiste Hamas accuse ce matin l'État hébreu d'utiliser la famine comme arme de guerre. Hier, le ministre israélien de la Défense a de nouveau exclu d'autoriser l'entrée de l'aide dans l'enclave palestinienne. Dans le même temps, les bombardements s'intensifient. Ce matin encore, des frappes auraient touché des tentes abritant des déplacés dans la bande de Gaza, faisant au moins 25 morts, parmi lesquels des enfants. Enfin, les opérations au sol témoignent là aussi d'une pression militaire accrue. L'armée cherche à présent à étendre son contrôle sur de vastes pans du territoire, au point qu'un tiers de la bande de Gaza est désormais désigné comme périmètre de sécurité. Les précisions depuis Jérusalem du correspondant de RFI pour France Culture, Michel Paul.
C'est un périmètre de sécurité sur environ 30% de la bande de Gaza. Alors il s'agit, expliquent les militaires israéliens, d'une zone tampon où la population palestinienne ne pourra plus vivre. Pour le ministre israélien de la Défense, contrairement à ce qui a eu lieu dans le passé, l'armée israélienne ne quittera pas ces zones qui ont été saisies depuis la reprise des combats le 18 mars dernier. Sur son compte X, Israel Katz souligne qu'il s'agit de zones tampons entre l'enclave palestinienne et le territoire israélien qui resteront en place dans toutes les situations, qu'elles soient temporaires ou bien permanente. Israël, a encore indiqué le ministre, entend également poursuivre le blocage hermétique de l'aide humanitaire à destination de Gaza. Le ministère de l'Information sous contrôle du Hamas alerte sur l'effondrement humanitaire complet de l'enclave palestinienne. Selon une évaluation sécuritaire israélienne citée par la télévision publique israélienne, Kan 11, les réserves alimentaires à Gaza seront épuisées d'ici un mois.
Toujours aucun signe de paix à l'horizon.
Près de deux mois après le lancement officiel de pourparlers entre Américains et Russes autour du sort de l'Ukraine, le fracas des armes continue de résonner aux portes de l'Europe sans pour autant que son écho ne vienne totalement réveiller les longs couloirs sans fin où s'enchaînent les sommets et autres réunions entre alliés occidentaux. Alors sera-ce différent aujourd'hui? Le secrétaire d'État Marco Rubio est arrivé ce matin à Paris pour des discussions sur le conflit. Troisième déplacement en Europe du chef de la diplomatie américaine et première visite officielle en France. Il sera pour l'occasion d'ailleurs accompagné de l'envoyé spécial pour l'Ukraine, Steve Witkoff. Frédéric Saïs, bonjour. Comment donc relancer des négociations au point mort? Il s'agira surtout en réalité pour la France de faire pression sur l'administration Trump depuis le désengagement américain en Ukraine et notamment, Frédéric, tenter de replacer l'Europe dans les discussions.
Oui, parce que depuis deux mois, ces discussions se sont tenues en Arabie Saoudite avec les diplomates américains comme médiateurs entre Russes et Ukrainiens, un tour de table sans l'Europe. Alors l'Élysée veut voir dans ce déjeuner qui commence dans une heure à l'Élysée l'occasion de peser, de convaincre notamment qu'une force européenne sur le sol ukrainien peut être utile éventuellement pour garantir un cessez-le-feu. Jusqu'ici, Washington n'a jamais soutenu ce projet pour éviter de fâcher Moscou, qui de son côté y est farouchement opposé. Mais d'un autre côté, les États-Unis sont obligés de constater que leurs efforts de négociation ne payent pas, des promesses de trêve quasiment immédiatement démenties par des bombardements dont s'accusent ensuite mutuellement Russes et Ukrainiens. Donald Trump lui-même envoie des messages contradictoires. Un jour, il accuse le président ukrainien Zelensky d'avoir déclenché la guerre. Un jour, il reproche à Vladimir Poutine de traîner en longueur et le menace de sanctions. Une dualité d'ailleurs incarnée par les deux invités du jour à l'Élysée, Marco Rubio, le chef de la diplomatie plus proche des positions européennes que Steve Witkoff, ancien homme d'affaires, envoyé spécial de Trump. Il a rencontré Vladimir Poutine il y a six jours à Saint-Pétersbourg et pour lui, l'idée de troupes européennes en Ukraine est, je cite, une posture absurde. Il reste donc du chemin pour rapprocher les points de vue.
Merci Frédéric Seyss. Alors, ces nouvelles discussions permettront-elles de faire avancer les pourparlers de paix? Seule certitude, le temps presse sur le terrain. Les forces armées ukrainiennes craignent une nouvelle offensive russe massive et attendent un engagement plus franc de la communauté internationale. C'est en tous les cas ce que des soldats qui se battent sur le front près de Kharkiv, dans le nord-est du pays, ont confié à nos envoyés spéciaux Faustine Calmel et Gilles Gallinaro. Témoignage.
À Kupiansk, les assauts russes sont incessants. Le lieutenant-colonel Volodymyr Parvatov se prépare même à devoir céder du terrain. L'appui des Occidentaux est vital.
Sans les États-Unis, on n'y arrivera pas. On a besoin d'un minimum de soutien. Et sans l'Europe, ce serait très dur. Dans ce cas-là, franchement, il n'y aura plus d'Ukrainiens. Ils vont tous mourir pour leur pays.
Cette brigade a subi beaucoup de pertes, admet Volodymyr Parvatov. Alors à l'idée de céder à Moscou la Crimée et 4 territoires partiellement occupés par les Russes, point central d'un éventuel accord de paix, a déclaré l'émissaire américain après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Le lieutenant-colonel s'emporte.
Vous avez vu combien de cimetières il y a en Ukraine maintenant? Ce n'est pas pour lâcher nos territoires. Poutine va se casser les dents sur ces 4 régions.
L'enjeu désormais, c'est de ne pas lâcher de terrain pour pouvoir peser dans les négociations. Pavlo Velikhorsky commande une unité ici.
Toutes les guerres finissent autour de la table des négociations et par la diplomatie. Mais pour récupérer nos territoires, il nous faut des munitions, des armes, des données de renseignement.
Les pays de l'Union européenne peinent à augmenter leur aide. Le plan pour livrer 2 millions de munitions d'artillerie lourde à Kiev est toujours en suspens.
Un reportage à Kupiansk, donc signé Faustine Calmel.
Alors si le principal sujet de discussion à Paris aujourd'hui sera la guerre en Ukraine, les entretiens devraient également porter sur la situation au Proche-Orient, mais aussi le dossier du nucléaire iranien.
Téhéran n'est pas loin de disposer de la bombe nucléaire, avertissait hier le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sauf que là encore, le désintérêt croissant de Donald Trump pour le multilatéralisme est flagrant. En l'occurrence, les Européens, pourtant négociateurs actifs jusque-là sur ce dossier, sont désormais cantonnés au rôle d'observateurs des tractations qui se déroulent entre Téhéran et Washington. Un premier round a eu lieu samedi dernier dans le sultanat de Mans et un second est prévu samedi prochain à Rome. Preuve toujours que le dialogue multilatéral, mais aussi l'utopie libérale d'une croissance économique globale, cède aujourd'hui la place au retour des États-nations sous les coups de boutoir des États-Unis. Giorgia Meloni, avocate du Made in Italy, est attendue aujourd'hui à Washington. Suite logique du balai des négociations ouvertes avec Donald Trump pour trouver des compromis sur les surtaxes douanières imposées par le locataire de la Maison-Blanche. Hier, c'est le ministre japonais de l'économie qui était reçu dans le bureau ovale sans qu'aucune avancée immédiate sur un quelconque fléchissement américain n'ait été obtenu. Et puis qu'il semble loin, ce temps où le patron du numéro 1 mondial du luxe, Bernard Arnault, assistait fièrement et en bonne place à l'investiture de Donald Trump. Depuis que le président américain s'est lancé dans une guerre commerciale avec le reste du monde, LVMH a vu ses ventes baisser au premier trimestre, au point de céder sa place de première capitalisation boursière de l'indice parisien à son concurrent Hermès. C'est dans ce contexte délicat, après avoir été détrôné par son rival de son rang de société de luxe la plus valorisée au monde, que le groupe français tient en ce moment même son assemblée générale.
C'était il y a 2 siècles, jour pour jour.
Une ordonnance du roi Charles X imposait à la jeune nation haïtienne une indemnité colossale, 150 millions de francs or, en échange de la reconnaissance de l'indépendance de la première République noire. Eh bien, Emmanuel Macron doit ouvrir aujourd'hui un nouveau chapitre dans le travail de mémoire sur cet épisode assez largement méconnu en France, mais encore douloureux en Haïti. Le chef de l'État doit dévoiler en l'occurrence une méthode afin d'évaluer l'impact de cette indemnité sur le développement de l'île, dès lors que la jeune nation a dû emprunter auprès des banques françaises une somme astronomique pour s'acquitter de cette créance, laquelle a nécessairement et durablement affecté les finances publiques du petit État. Alors qu'est-ce que cette double dette, c'est qu'elle, à la fois du traumatisme originel de l'esclavage et de la traite, joue comme rôle aujourd'hui dans la mémoire commune entre la France et Haïti, pour le savoir, invité de la rédaction, Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et ancien conseiller mémoire de François Hollande. Bonjour monsieur.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Selon les éléments donc, qui ont été communiqués par l'Élysée hier, Emmanuel Macron doit faire une annonce dans laquelle la France reconnaît que l'indemnité qu'Haïti a dû payer à la France en échange donc de la reconnaissance de son indépendance a constitué une forme d'injustice initiale qui a pesé sur l'État haïtien dès son origine. C'est important pour comprendre le poids de cette dette dans l'histoire commune de la France et d'Haïti de prononcer ce mot d'injustice.
Oui, c'est un mot qui est capital parce que pour la première fois, la France met un qualificatif sur cet acte de la restauration dont les conséquences ont été très longues puisqu'elles se sont prolongées jusqu'au XXe siècle. Et en parlant d'injustice, on est dans un début de réparation parce que ça témoigne du fait que la France reconnaît que Haïti était du bon côté de l'histoire, du côté de la révolution, du côté de l'universalité des droits, du côté de l'abolition de l'esclavage, et que à un moment donné, en 1825, un gouvernement réactionnaire français a voulu se venger, car c'était une vengeance, de cet État qui s'était échappé de la tutelle coloniale française, où des esclaves avaient gagné leur liberté au nom des idéaux de la France elle-même, mais pas de la France de la Révolution, de la France de la Restauration, les idéaux de la France de la Révolution. Et donc, en reconnaissant cette injustice, la France, en fait, la France républicaine, remet les choses dans le bon ordre et envoie, en fait, un message qui est de dire... les Haïtiens, les esclaves révoltés, Toussaint Louverture étaient du bon côté de l'histoire et la France a eu tort de les punir en 1825 et de leur extorquer cette fameuse indemnité.
Emmanuel Macron devrait également annoncer aujourd'hui la mise en place d'un travail historique mené conjointement donc avec Haïti pour évaluer l'effet de cette indemnité justement sur le développement du pays. Sait-on quels sont les acteurs déjà qui devront être engagés dans ce travail de mémoire?
Alors, on ne le sait pas encore exactement. La déclaration du président de la République n'a pas encore été publiée. Ce qu'on peut dire, nous, du point de vue de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est qu'on souhaite que cette démarche soit une démarche bilatérale entre la France et Haïti, donc entre le gouvernement français et Haïti, mais qu'elle associe également la société civile. C'est très important sur ces sujets de mémoire qui touchent toute la société, qu'on donne une place aussi à la société civile haïtienne, ses organisations, ses représentants, à la société civile française, aux diasporas. Et donc, il va falloir mettre en place une méthode particulière que la France a déjà expérimenté. Ce travail entre États, mais aussi entre sociétés, a été initié sur le Rwanda, sur l'Algérie, sur le Cameroun. Et il y a d'autres exemples à l'étranger, aux Pays-Bas ou en Allemagne, qui montrent que c'est possible de construire des démarches de ce type.
Malgré tout, est-ce que le risque de ce travail de mémoire, ça n'est pas de reporter encore le moment de prendre une décision pour réparer donc un événement dont l'impact en réalité est déjà connu?
Alors, le travail il doit être fait sérieusement. C'est un sujet complexe, donc il est normal que ça prenne un peu de temps. Après, ce qui est vrai, c'est que la situation d'Haïti aujourd'hui est une situation d'urgence. Et donc, il faut être capable de gérer ces deux calendriers. Un calendrier pour répondre à l'urgence, l'urgence sécuritaire, l'urgence humanitaire en Haïti, et on sait que la France est engagée sur ce plan-là. Et un calendrier un peu plus long autour de cette question mémorielle. Et à un moment, les deux démarches auront vocation à se rejoindre. Et c'est en tout cas dans cet esprit-là que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a formulé des propositions en ce sens dans la note que nous avons publiée le mois dernier sur ce sujet.
Selon quelles conditions concrètement peut-on définir donc le montant des réparations financières auxquelles le travail amorcé aujourd'hui doit aboutir?
Alors, on est au début de la démarche. Donc, la démarche, c'est précisément de dessiner les contours de cette question, ce que ça veut dire, et la réponse ne viendra que demain. On a ouvert une porte sur un champ qui est nouveau, où les acteurs vont devoir apprendre aussi à penser ces questions. On a des exemples néanmoins aux Pays-Bas où le gouvernement a présenté des excuses pour l'esclavage et a présenté un plan de 200 millions d'euros. En Allemagne, sur un autre sujet de colonisation, le génocide en Namibie, l'Allemagne a présenté un plan d'1 milliard d'euros. Donc on voit qu'il y a des précédents et je pense que ces précédents-là peuvent inspirer la France renforcer Haïti dans cette nouvelle démarche.
Une dernière question en quelques mots, s'il vous plaît, sur le plan diplomatique. Cette fois-ci, quelle peut être l'importance de cet acte de reconnaissance de responsabilité? Au fond, qu'est-ce que ça va changer concrètement?
C'est la première fois que dans un cadre diplomatique préparé, la France reconnaît une forme de responsabilité sur cette question qui est en fait la première étape de la décolonisation, de l'histoire de la décolonisation dans le monde. Haïti est la première colonie qui se décolonise. Et donc que la France avance sur ce sujet-là, ça envoie un message qui n'est pas que un message bilatéral franco-haïtien, ça envoie un message auprès de toutes les anciennes colonies, l'Afrique notamment, parce que Haïti, c'est aussi le combat pour la dignité des peuples noirs. Et on espère que ça améliorera la qualité de dialogue entre la France, l'Europe et ces pays sur un terrain qui est celui de l'universalité des droits.
C'est bien compris. Merci. Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint, je le rappelle, de la Fondation donc pour la mémoire de l'esclavage et ancien conseiller mémoire de François Hollande, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Le retour du soleil par la façade atlantique. En revanche, des nuages resteront fixés à l'est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Caroline Desrosiers. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mélanie Kuzilovic pour le prochain journal de la rédaction.